discerner l'attaque du diable et lui fermer la porte. Donc, comme je le disais, que depuis la semaine passée, notre attention a commencé à se porter sur le discernement spirituel, plus particulièrement sur le discernement de ce qui se passe dans notre esprit. Et j'expliquais la semaine passée que l'homme est un esprit qui vit dans un corps charnel. L'homme n'est pas seulement le physique, mais l'homme est corps, âme et esprit. Et la dimension de l'homme qui communie avec Dieu, c'est la dimension de l'esprit. Nous avons aussi, la semaine passée, souligné l'importance de connaître, l'importance de connaître au préalable quand son esprit est dans un état normal et quand son esprit n'est pas dans un état normal. En fait, de développer l'habilité de détecter quand l'environnement change, quand les choses deviennent anormales. Et c'est rare. Ça fait depuis plus de 20 ans que je suis chrétien, je n'ai jamais entendu enseigner sur ça. Comment détecter quand ça va mal? Parce que dans le naturel, quand je fais de la fièvre, je peux savoir que je fais de la fièvre. Donc, je n'ai pas besoin nécessairement d'appeler un médecin, mais je peux savoir que je fais de la fièvre. Et dans le spirituel, il est important pour nous. Ayant défini ça la semaine passée, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous encourage à aller suivre l'enseignement qui est déjà mis en ligne. Mais aujourd'hui, nous voulons aller plus loin. Nous voulons commencer à parler du discernement de ce qui se passe dans notre esprit maintenant quand les anomalies arrivent. Comment les reconnaître? Nous allons étaler cet enseignement d'aujourd'hui en deux vendredis, donc ce vendredi ici. Ensuite, nous allons le terminer la semaine prochaine afin de pouvoir bien répartir la matière. Êtes-vous avec moi? Je vous invite pour cela à lire trois textes des Écritures qui nous serviront de base. Ensuite, les autres textes, je vais pouvoir les citer. Le premier texte que nous allons lire ce soir, c'est dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 25. Je vais inviter les hommes à prendre Galates, chapitre 5, le verset 25. Ensuite, les dames vont prendre Romains, chapitre 8, le verset 16. Romains, chapitre 8, le verset 16 pour les dames. Ensuite, nous allons prendre le dernier texte ensemble, étant donné qu'il n'y a pas de troisième genre. Voilà, donc la parole de Dieu dit dans Galates, chapitre 5, le verset 25. « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Romains, chapitre 8, le verset 16, dit ceci. « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Donc, le véhicule par lequel l'Esprit de Dieu communique avec l'esprit humain, retenez ça parce que c'est un élément important de l'enseignement, c'est par l'esprit, c'est d'esprit en esprit qu'il y a communication. L'esprit de Dieu ne communique pas avec l'âme ou avec la chair, mais l'esprit communique avec l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10, la Bible dit ceci. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, par relation de proportion, nous pouvons dire que de la même façon que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu et connaît les profondeurs de Dieu, l'Esprit de l'homme aussi sonde les profondeurs de l'homme et connaît les profondeurs de l'homme. Alors, à cela, j'aimerais ajouter une autre définition de discernement qui va pouvoir nous aider dans la pratique de l'enseignement ce soir. Le discernement est comme un système d'alarme dont le rôle consiste à protéger la propriété et à prévenir de toute intrusion. Je répète, le discernement est comme un système d'alarme dont le rôle consiste à protéger une propriété ou la personne et à prévenir toute forme d'intrusion ou toute forme d'anomalie. Deuxième définition qui peut se donner, en fait, je me dis que la qualité du discernement est donc un déterminant important pour détecter les anomalies causées par les attaques et les pièges du diable. Le discernement est essentiel et donc le discernement est donc la pièce maîtresse en fait de l'esprit. Et au plus le discernement est grand, au plus la sensibilité à détecter les mouvements de l'adversaire sera grand. Chez moi à la maison, j'ai un système d'alarme et parfois on se fait avoir par notre propre système d'alarme. C'est que pour ouvrir la porte au patio, il y a un détecteur. Et parfois le soir, on met le système d'alarme et puis le matin, tu te réveilles et puis tu vois la belle piscine, tu dis je vais aller faire un saut. Tu arrives, tu ouvres, à ta propre maison, pow, le système d'alarme se déclenche. Et puis là, tu es fâché, mais le système d'alarme n'a que fait son travail. Le discernement, c'est le système d'alarme de l'esprit. Quelqu'un dit Amen.
Amen.
Quelqu'un dit Amen.
Amen.
Quelqu'un dit Amen.
Amen.
Donc, on a parlé qu'au plus de discernement. Donc, plus l'esprit de l'homme est en communion avec l'esprit de Dieu, au plus il devient sensible à toute perturbation de l'environnement. Une fois qu'une perturbation est détectée, la seconde étape consiste à mettre en pratique son discernement afin de comprendre ce qui se passe. Parce que tu peux avoir le discernement, mais il faut le mettre en pratique. Est-ce que vous voulez que je répète? J'ai vraiment besoin que vous réagissiez pour que je sache si vous... Donc, j'ai dit que au plus l'esprit d'un homme est en communion avec l'esprit de Dieu, au plus il développe la sensibilité de détecter toute anomalie dans son environnement. Une fois que la perturbation est détectée, la seconde étape consiste de mettre en pratique son discernement afin de comprendre ce qui se passe. Et je sais ce soir que ce n'est pas un enseignement où on va crier beaucoup d'amen, mais c'est un enseignement nécessaire afin d'éviter que vous soyez une victime inutile. Donc, nous comprenons alors naturellement qu'il soit normal que les plus grandes attaques du diable soient portées sur l'esprit humain afin de casser la communion avec l'esprit de Dieu, afin de briser la sensibilité pour que l'ennemi rentre facilement. Le diable est plus intéressé à t'attaquer dans ton esprit que dans ton corps. Les attaques sur l'esprit humain, donc, sont le premier objectif et subtilement de briser la communion avec Dieu et la remplacer par une relation avec Dieu basée sur les émotions et les intellects. La plupart des chrétiens ne marchent pas par l'esprit. La plupart marchent par les émotions. La plupart marchent par les sentiments. Exemple, il vient dans une réunion, si la salle est pleine, il dit Dieu va agir. Si la salle est vide, Dieu n'est pas là. Il vient dans une réunion, si les sens sont chauds, Dieu va faire encore, ou le Saint-Esprit va agir. On met une petite chanson d'adoration calme où c'est juste la guitare qui joue, Dieu n'est pas là. Parce que tu as une communion avec Dieu basée sur les émotions. Or, la Bible dit que si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Mais la vie dans l'Esprit, ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de révélation et de communion.
Amen.
Quelqu'un dit Amen.
Amen.
Quelqu'un dit Amen.
Amen.
Voilà pourquoi est-ce que, parfois, dans nos cultes, nous forçons les modérateurs à mettre des chants chauds que certains qui viennent de l'Afrique appellent ça des chants fétiches. Donc, quand on chante ces chants-là, ils sentent que non, le Saint-Esprit doit venir. Est-ce que je peux aller plus loin ce soir?
Amen.
Pourquoi est-ce que quand on veut, pour le Saint-Esprit, on doit chanter sur le Saint-Esprit? Est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit vient plus parce qu'on chante le Saint-Esprit est là? Il ne vient pas plus? Il vient parce que nous connectons spirituellement à Dieu.
Amen.
Quand vous chantez le Saint-Esprit, là, pour que le Saint-Esprit vienne, c'est de la manipulation spirituelle. Frère, je ne le croyais pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit me le révèle. Que c'est comme si... Est-ce que vous me permettez?
Amen.
C'est comme si un homme, un mari veut avoir des relations avec son épouse et il n'est jamais gentil. Mais ce soir-là, il rentre et dit, « Oh chérie, tu sais que tu es belle. Je t'ai apporté des fleurs. Oh, nul ne cuisine comme toi. » Qu'est-ce que la femme va se dire? Ah, mais même vous le dites, vous le voyez. Donc, quelqu'un qui n'a pas de communion avec Dieu, qui ne cherche pas Dieu, soudainement fait le Saint-Esprit, commence. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il a... Le Saint-Esprit te regarde et dit, arrête la comédie. Arrête la comédie. Ah, arrête la comédie. Quelqu'un dit amen.
Amen.
Quelqu'un dit c'est la vérité. Est-ce que vous êtes là?
Amen.
Est-ce que c'est bon?
Amen.
Donc, le problème de la majorité des chrétiens, c'est une vie chrétienne émotionnelle, basée sur les émotions, basée sur les sentiments. Il fait froid, je ne prie pas. J'ai perdu mon emploi, je ne prie pas. Ou bien j'ai perdu, je prie beaucoup maintenant. Est-ce que vous me comprenez? Mais vous allez voir que dans le naturel, s'il fait chaud, je m'habille. Il fait froid, je m'habille. Je m'habille en tout temps. Et parce que nos relations sont... Parce que nos relations sont basées sur les motifs, c'est pour cela que nous avons beaucoup de problèmes à avancer avec Dieu. Et même le diable peut s'insérer même dans notre vie ou dans nos réunions en créant un sentiment. Est-ce que je peux même demander à Randy de venir ici au clavier et puis de nous mettre un son comme ça? Et puis je dis, Saint-Esprit, descends ici. Et vous, parce que je vous conditionne, vous commencez à sentir comme des frissons. Vous dites que le Saint-Esprit, là, il n'est pas là. C'est juste un peu de climatisation avec un clavier qui joue doucement. Et ma voix qui vous conditionne, il dit, le Saint-Esprit est là. Sentez-le. Concentrez-vous. Je n'ai pas besoin de me concentrer. Je sais que mon épouse est là. Je n'ai pas besoin de me concentrer pour savoir qu'elle est là. Parce que je suis en communion avec elle, je n'ai pas besoin de me... Je vous dis qu'on rentre dans des vrais enseignements maintenant. On rentre dans des vrais enseignements où tu es forcé de grandir spirituellement. Amen.
Amen.
Sinon, tu laisses, ce n'est pas grave. Alors, c'est ça qui arrive, c'est que parce que notre vie chrétienne est basée sur les motifs, sur le sentimental, nous ne sommes pas solides. Nous allons aller plus loin. Nous sommes juste dans l'introduction là, on est en train de déblayer. Donc, le but du diable, c'est de venir et nous amener à être chrétiens émotifs. Je vais retomber dans l'ordre après. Donc, le diable sait que s'il supprime soudainement notre communion avec Dieu, il va être détecté. Le diable le sait. Il sait que s'il vient... Et soudainement, pas. Il supprime ta communion avec Dieu. Tu vas sentir automatiquement qu'il y a quelque chose d'anormal. Alors le diable va agir par ruse en remplaçant la communion avec Dieu par des substituts, par des émotions, par des sentiments. Alors toi, tu continues à avancer en pensant que tu es toujours en communion. C'est qu'on a enlevé le vrai. Lorsque j'étais petit, il y avait souvent un film qui passait à la télé. Je ne sais pas comment l'appeler, mais Miss Sotty jouait dedans. Agence de risque. Et ils avaient l'habitude que quand ils allaient cambrioler quelque part, ils prenaient la photo du couloir et puis ils mettaient la photo devant la caméra. Et pendant ce temps-là, ils bloquaient le système de caméra. Puis eux continuaient à voler. Mais toi, le gardien de sécurité, pendant qu'il regardait dans la caméra, il voyait les mêmes images qu'avant, alors qu'en réalité, la scène avait changé. Et c'est ce que le diable fait avec beaucoup d'enfants de Dieu. Il enlève la communion directe de l'esprit avec Dieu. Il la remplace par des substituts qui sont des sentiments, des émotions. Et toi, tu continues, mais tranquillement, tu es en train de te détourner de Dieu. Tranquillement, tu n'es plus en communion directe avec Dieu. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8, juste prenez-le en note. Si vous pouvez l'ouvrir, vous l'ouvrez. Si vous pouvez le prendre en note, prenez en note. La Bible dit ceci. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. La Bible dit, « Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Cette parole n'est pas dite aux non-chrétiens, c'est dite aux chrétiens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 6. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 6 dit ceci. « Ne dormons Donc, point comme les autres, veillons et soyons sobres. Maintenant, la bataille, comme nous le voyons, que le diable essaye de livrer, ce n'est pas la bataille pour contrôler vos émotions, c'est la bataille pour contrôler votre esprit, pour que vous ne soyez pas en communion parfaite avec Dieu, pour que votre esprit ne soit pas en communion parfaite avec Dieu. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens, chapitre 14, le verset 11, et nous allons vraiment traîner sur ce passage-là ce soir. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 14, la Bible dit ceci, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » J'aimerais que répéter ce texte-là, ça va nous aider. « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan se déguise lui-même en ange de lumière. » Donc, si un chrétien ne fait pas attention, la source même de ses visions, de ses révélations, ça peut être Satan. Je veux vous entendre dire amen. Si un serviteur de Dieu ne fait pas attention, même parfois la source qui donne les prophéties, même si les prophéties sont justes, ça peut ne pas être Dieu. Parce qu'il n'a pas fait attention, le diable s'est inséré entre la communion parfaite avec Dieu et maintenant, c'est le diable déguisé en ange de lumière qui lui souffle ce qu'il a. Et pendant que lui pense qu'il est en communion, son esprit s'affaiblit. L'esprit d'un enfant de Dieu peut être influencé par deux choses, soit le Saint-Esprit ou les puissances du mal. Quelqu'un dit Amen.
Amen.
Quelqu'un dit Amen.
Amen.
À moins qu'il n'apprenne à détecter les ruses du diable, un enfant de Dieu ne peut résister à la supercherie. Le diable, la Bible dit que le diable, Satan, se déguise en ange de lumière. Voilà pourquoi même quand tu fais un rêve, avant même que tu dises que Dieu m'a dit, surtout nos frères qui viennent d'un certain pays en Afrique centrale, s'il a rêvé, quelqu'un l'a attaqué et la personne ressemblait au pasteur, le pasteur est un sorcier, le pasteur m'a attaqué, et t'es-tu arrêté un moment pour discerner? Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé ce rêve-là? Et ou bien c'est le diable qui s'est déguisé en ange de lumière. Est-ce que vous êtes avec moi? Je peux continuer? Dans la marche avec Dieu, et j'emploierai beaucoup ce mot-là, le disciple qui marche seront selon l'esprit fera des expériences naturelles et des expériences surnaturelles, qui sont des rêves, des visions, des prophéties, l'exercice des dons spirituels. Il est fortement recommandé d'examiner à la lumière de la parole de Dieu et par le discernement afin de savoir si ce que nous exerçons ou ce que nous faisons, c'est réellement de la part de Dieu. Par l'exercice, quelqu'un peut venir d'une famille où ils ont exercé la divination depuis des générations. Quand il s'est converti, vous pensez qu'il va manifester quoi? Il pourra donner une prophétie. Mais Satan s'est déguisé en ange de Dieu. Et vous me dites, c'est un prophète. Non, la source n'a pas été fermée. Et il exerce avec une influence, un esprit dans sa lignée. Mais vous, enfants de Dieu, parce que la parole est juste, vous dites que Dieu a parlé, vous n'avez pas exercé de discernement. Je vous laisse digérer. Là, je viens de faire peur à tout le monde. Là. Parce que la parole est juste, vous dites que Dieu a parlé. Non, vous n'avez pas exercé de discernement. Avec quel esprit il opère? L'exactitude, le diable peut être exact. Il peut envoyer un démon te suivre toute la semaine et puis souffler à l'homme qui a l'esprit de divination en disant que, vous voyez la femme qui est là, elle est partie chez le médecin lui a dit ça. Et tu rentres, donne la parole, oh, quel homme de Dieu! Tu n'as pas eu une zone pour te dire, wait a minute, discernons. Oui, la parole est juste, mais qu'est-ce que mon esprit me dit? Souvent, il m'arrive, je rentre quelque part, je vois quelqu'un devant, il a l'onction prophétique, Puis il va prophétiser, oui, le Seigneur t'appelle. Moi, j'ai dit, Seigneur, s'il est vraiment ton homme, qu'il me dise exactement ça, ça, ça. Là, on va savoir si tu as l'esprit. 1 Jean, chapitre 4, le verset 1. 1 Jean, chapitre 4, le verset 1. La Bible dit ceci, et c'est à partir de là que nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. 1 Jean, chapitre 4, le verset 1. Et la partie de la plus difficile dans la vie chrétienne, c'est quand tu as connu un serviteur de Dieu qui a marché droit. Et à un moment donné, Satan s'est... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Satan joue avec son esprit. Et maintenant, ce n'est plus l'esprit de Dieu qui lui parle, mais c'est un ange des ténèbres qui lui parle. Et vous allez entendre aujourd'hui beaucoup de serviteurs dire, non, moi je sors de mon corps, je vais dans tel pays, excuse-moi. La dernière fois, j'ai su, ceux qui faisaient ça la dernière fois, c'était les sorciers. Bon. Mais puisque sentimentalement, vous êtes attaché à lui, vous continuez simplement à le suivre. Et pourtant, votre discernement, votre système d'alarme vous dit que dans ce qu'il me dit, il y a quelque chose d'anormal. La parole de Dieu me dit que c'est anormal. Mais bon, tu le suis parce que tu l'aimes, sans savoir que la source n'est plus Dieu. 1 Jean, chapitre 4, le verset 1 dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Est-ce que vous voyez ce que je vous dis dans la parole de Dieu? La Bible dit d'éprouver. Pas les paroles. La parole peut être exacte. Mais d'éprouver l'esprit. De sonder l'esprit pour savoir si l'esprit est de Dieu. Parce que la parole, n'importe qui peut la donner. L'ange de Balaam n'a-t-il pas dit une parole exacte? Balaam n'a-t-il pas donné une parole exacte? Mais l'esprit qui l'animait, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Ce n'était pas un esprit saint. C'était un esprit de duplicité pour l'intérêt. Et la Bible nous dit qu'il faut éprouver les esprits. Et je voudrais m'arrêter là un moment parce que le mot que éprouver ici, c'est un mot qu'on retrouve beaucoup dans la parole de Dieu. C'est le mot dikomazo. Dikomazo qui veut dire mettre à l'épreuve, examiner, éprouver. Pour ceux qui écrivent dikomazo, c'est écrit comme ça se prononce. Dokimazo. Donc c'est écrit D-O-K-I-M-A-Z-O. D-O-K-I-M-A-Z-O. Qui veut dire mettre à l'épreuve, examiner, éprouver. Éprouver, épreuve des métaux. Donc passer par le feu du fondeur. Reconnaître comme véritable après un examen, jugé digne. Donc, dokimazo se traduit généralement par discerner, essayer, apprécier, éprouver, examiner, sonder. La Bible dit éprouver les esprits. Ce n'est pas les démons, c'est les esprits des hommes. Un homme peut donner une parole correcte, mais avec un esprit de rébellion. Donc, ce qui vous transfère, c'est la rébellion. Voilà pourquoi même les mamans, à un moment donné, tu vois ton enfant, il s'attache à un ami, l'ami a l'air correct, mais ton enfant dévie. C'est l'esprit qui l'habite. C'est l'esprit qui l'habite. Tu as ton mari, il est correct. Il ne t'a jamais trompé. Il rentre seulement dans un emploi, soudainement, il commence à découcher. C'est l'esprit qui règne à cet endroit-là. Il y a un esprit de prostitution discerné. Quelqu'un dit amen.
Amen.
Je vais aller rapidement pour cette partie ici. Le mot dokimazo, on le retrouve dans 21 versets dans la parole de Dieu. Pour vous dire combien il est important, je vais vous en citer quelques-uns pour que vous puissiez comprendre. Dans Luc chapitre 12, le verset 56, Jésus dit ceci, « Hypocrite, vous savez discerner dokimazo. » L'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Romains, N'ouvrez pas, juste notez si vous êtes là. Romains chapitre 12, le verset 2. Un texte que nous citons souvent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, dokimazo, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, même pour connaître la volonté de Dieu, nous connaissons la volonté de Dieu par le discernement. Beaucoup de chrétiens veulent connaître la volonté de Dieu par une prophétie. Mais nous connaissons la volonté de Dieu par le discernement parce que notre esprit est en communion avec l'esprit de Dieu. Quelqu'un me disait tout à l'heure, pasteur, c'est bizarre. J'ai l'impression que tout ce que tu touches marche. Non, ce n'est pas de la magie. C'est juste être au bon endroit, au bon moment, parce que je discerne dans l'esprit ce que le Saint-Esprit veut que je fasse. Amen. Et si tu sais discerner, tu sauras toujours quelle est la volonté de Dieu pour toi. Quand tu ne sais pas discerner, tu dois appeler un prophète en Afrique et il va te dire, envoie-moi 500 dollars parce que je rentre dans 40 jours de jeûne pour toi, mais au nombre des personnes qui doivent l'envoyer 500 dollars, il doit être maigre cet homme-là. Un job pastoral, excusez. Quelqu'un m'écrit sur Facebook, consultation prophétique. J'ai fait, oh my God. Je dis, je veux bien, ça ne dérange pas qu'on consulte. Mais quelque part, ce qu'on me dit doit confirmer ce qu'il y a dans mon esprit. J'avais une conversation avec quelqu'un aujourd'hui, cette semaine, et je lui disais, mais écoute, il me semble qu'avec du discernement, ça devrait être ça, la réponse. Et la personne me dit, ça confirme ce que j'avais dans mon esprit. Le discernement confirme. C'est par le discernement qu'on connaît la volonté de Dieu. Je pense que là, on vient de casser comme la base de beaucoup de gens. Le discernement commence d'abord à l'intérieur, avant d'attendre que quelqu'un d'autre. Généralement, quand je suis dans une pièce, que quelqu'un va venir prophétiser sur moi, généralement, je le sais d'avance, et je sais plus ou moins ce qu'ils vont dire. C'est comme ça que je sais s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Il n'y a plus d'amen. Aïe, aïe, en disant aïe, aïe, si c'est dur. De Corinthiens, chapitre 3, le verset... chapitre 13, pardon, le verset 5. De Corinthiens, chapitre 13, le verset 5. Et là, nous, tranquillement, nous faisons la boucle pour aller dans l'essentiel de ce soir. De Corinthiens, chapitre 13, le verset 5. La Bible dit ceci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes où ça. Est-ce qu'on s'examine pour savoir si on a l'onction? Non. On s'examine pour savoir si on est dans la foi parce que ça se pourrait que j'ai dévié, mais je ne le savais pas. Ça se pourrait qu'un ange de ténèbres déguisé en ange de lumière est en train de me donner des révélations et je ne le savais pas. Il dit, examinez-vous vous-même si vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Et cette parole de s'examiner ne s'adresse pas seulement aux chrétiens assis dans les bancs, ça s'adresse aussi aux pasteurs pour s'assurer que le message que tu donnes vient de Dieu, ce n'est pas le produit de l'intellect, que le message que tu donnes vient de Dieu, ce n'est pas le produit d'une révélation surnaturelle que tu as eue. Et là, tu essaies de réinventer la parole de Dieu. Non, le canon des Écritures a été fermé. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien enlever. Ce qui rend notre prédication crédible, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un dit amen. Et la Bible dit, éprouvez-vous vous-même, dokimazo, examinez-vous, sondez-vous, éprouvez-vous vous-même, discernez-vous vous-même. Je vous prouve tout ce que je vous dis par la parole de Dieu. Amen. Discernez-vous vous-même, connaissez l'état de santé de votre esprit. Tu connais ton état de santé, à tous les 6 mois, tu vas chez le médecin pour qu'on te vérifie, enfin normal, si tu as un médecin de famille évidemment, sinon c'est les urgences pendant longtemps, job pastoral. Mais examinez-vous vous-même. Donc ce n'est pas un autre qui t'examine. C'est toi-même qui dois t'examiner. Tu as la responsabilité de te dokimazo. Tu peux le dire à ton voisin. Dis-lui, tu as la responsabilité de te dokimazo. De temps en temps, tu te fais un petit dokimazo. Ce n'est pas des enseignements qui nous excitent, mais ce sont des enseignements qui nous font grandir. C'est des enseignements qui font que tu es un chrétien maintenant stable, un chrétien mature, pas emporté à toutes sortes de vents. Voyez-vous, quand le critère d'un chrétien de choisir une église, c'est où est-ce que la musique est bonne, c'est un chrétien charnel. Quand ton critère, c'est où est-ce que la musique est bonne, quand ton critère, c'est où est la foule, tu es un chrétien charnel. Le chrétien spirituel va où l'esprit va. Voilà pourquoi Jésus dit à Nicodème, tu es tellement charnel, mais l'esprit souffle où il veut et tu ne sais pas où le vent va aller. Amen. Être là où Dieu me veut. Amen. Examinez-vous, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés. Galates, c'est toujours pour vous montrer le dokimazo. Galates chapitre 6, le verset 4. Galates chapitre 6, le verset 4. Après ça, là, j'ai entendu quelqu'un me dire cette semaine, « Pasteur, je suis en train de grandir, c'est pas possible. » Je lui dis, « C'est normal, c'est des bons enseignements. » Galates chapitre 6, le verset 4. La Bible dit que chacun s'examine, dokimazo, que chacun examine ses propres œuvres. Non seulement tu dois te discerner intérieurement, mais tu dois aussi discerner les œuvres que tu fais. Parce que les œuvres que tu fais peuvent être des œuvres charnelles. Et beaucoup des chrétiens font des prières charnelles. Tu sais, ces prières charnelles, c'est des prières hors sujet. Des prières que Dieu n'a pas besoin, mais tu es tenté de les faire quand même. Seigneur, donne-moi à manger. Seigneur dit, arrête de prier pour à manger. J'ai déjà prouvé, est-ce que tu peux prier pour la sœur qui est à l'hôpital? Même dans la prière, il faut discerner si la prière que je fais, c'est ça. L'apôtre Paul dit que nous ne savons pas comment prier, mais dans la prière, l'Esprit de Dieu intercède pour nous. Alors comment discerner la volonté de Dieu dans la prière? Je fais juste une petite parenthèse. Tu es chez toi puis tu n'as pas envie de prier, comme ça nous arrive souvent, à moi, pas à vous. Ça vous arrive aussi? Et puis là, tu te dis, bon, je suis un chrétien, non, je suis un pasteur, il faut que je prie. Et là, tu commences à prier, puis tu n'as pas envie de prier. Et là, tu commences à prier, Seigneur, je te bénis parce que tu es bon, c'est plate, là. Tu sais, c'est des prières, c'est comme, Seigneur, je te bénis parce que tu es bon, mais je ne le sens pas. Seigneur, tu es merveilleux. Il n'y a rien de merveilleux, you know. Seigneur, tu pries. Et à un moment donné, pendant que tu pries, il y a un besoin qui s'impose à toi. C'est ça la volonté de Dieu, commence à prier. Tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas prier pour ça, tu sens comme un fardeau, puis à un moment donné, c'est comme si tu n'as plus envie, ça n'a plus goût. C'est fini, l'Esprit a dit c'est fini pour ça. Et le prochain besoin va se présenter. Et à un moment donné, tu pries, puis à un moment donné, c'est comme si l'envie de prier est partie. Arrête, l'Esprit a dit c'est fini. Quelqu'un dit amen. Est-ce que je viens d'aider quelqu'un? Tu es chez toi, dans la cuisine, puis tout d'un coup, tu commences à chanter. Ça fait 10 minutes que tu chantes. Mais le Saint-Esprit te dit, va prier. Mais va prier. Pourquoi t'es... Là, tu chantes, puis soudainement, Satan te dit, oh, au fait, tu as oublié de checker la météo. Là, tu vas checker la météo, mais pendant que tu checkes, tu t'en vas pour allumer la télévision pour regarder la météo. C'était sur le journal télévisé, puis on passait le journal sur Haïti. Oh, il faut que je regarde. Là, tu as arrêté de chanter. Regarde comment le diable t'a détourné. Regarde comment le diable t'a juste détourné, mais gentiment. Et tu n'as pas pu discerner, là tu es là. Non, ou bien pendant que tu commences à chanter, tu sais pas pourquoi tu t'es mis à chanter. Puis pendant que tu dis je vais prier, tu as eu un like sur Facebook. Ah, faut que j'arrive à mon like. Et Satan te dit, yeah, I like it, go ahead. Et puis pendant que tu te vas faire regarder ton like sur Facebook, et là il y a une vidéo bizarre. Alors tu dis, mais il faut que je sache c'est quoi. Mais l'ennemi t'a volé un appel que le Saint-Esprit te faisait attendre. Est-ce que ça aide quelqu'un ce soir? Éphésiens chapitre 5, le verset 10 dit ceci. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Trois choses à examiner. Oh, c'est vraiment bon, je devrais prêcher ça dimanche matin. S'examiner, examiner ses œuvres et examiner ce qui est agréable au Seigneur. Dokimazo encore. Finalement, Éphésiens chapitre 1, le verset 10 dit ceci, pour le discernement, dokimazo, des choses meilleures afin que vous soyez purs, irréprochables au jour du Seigneur. Philippiens chapitre 1, le verset 10. Quelqu'un dit amen. Donc, Tout ça pour vous dire que la contrefaçon, le camouflage, le dédoublement, la confusion sont les quatre armes que Satan utilise contre les enfants de Dieu. Voilà pourquoi j'ai pris un long temps pour vous montrer comment la parole de Dieu insiste sur l'importance de ce dokimazo, de discerner. Non seulement ce qui se passe en moi, ce que je fais, mais aussi ce qui est agréable à Dieu. Satan utilise la contrefaçon. Ses armes lui permettent de pénétrer l'esprit des enfants de Dieu en se faisant passer pour l'esprit de Dieu. J'ai déjà écouté même des gens parler en langue, j'ai dit ça, c'est pas l'esprit de Dieu. Et quand tu dis, je commande à toute présence là de se manifester, je dis, oh sœur, oh frère, tu as changé. Tu entends le frère avec une voix de femme, allô, je m'appelle Cindy. Discerner. Et quand vous ne le savez pas, vous allez avoir quelqu'un qui semble manifester les dons spirituels. Et parce qu'il semble être zélé, vous lui dites, frère, commence à imposer les mains aux gens. J'ai dit à ceux qui sont mes enfants spirituels, c'est ton père spirituel qui t'impose les mains. Ne laisse pas les gens t'imposer les mains au hasard. On va te transmettre des choses. Tu ne connais pas la personne. Oh, il vient d'Afrique du Sud, il était, mais ne va pas mettre ta tête, mets au moins ton pied. Mets le pied. Tu vas mettre la tête là-bas, ce n'est pas ton père spirituel. On va te transmettre des choses parce que tu ne connais pas cette personne-là spirituellement. Si c'est un véritable homme de Dieu, il peut prier pour toi. Même à distance, le Seigneur va agir. Donc, ces armes lui permettent de pénétrer l'esprit humain et pour se faire passer, comme on disait, comme un ange de lumière. Une fois que les enfants de Dieu sont tombés dans ces pièges, une fois que l'enfant de Dieu tombe dans ces pièges, il suivra alors la voie de l'ennemi et les manifestations qui ne sont pas celles de Dieu, croyant qu'il est en communion avec Dieu. Et c'est ça que l'ennemi fait, il se maquille. Il se maquille. Un jour, tu es en train de prier, et tellement que tu as besoin des dons, et puis tu as besoin des dons, et à un moment donné, il t'arrive, et puis l'ennemi te souffle une parole, et puis tu donnes une parole. Et puis la parole prophétique est exacte. Et tu dis, je suis prophète. L'ennemi, il n'y a pas de problème. On attache un esprit de divination qui te suit maintenant. Et lui, il t'insouffle. Est-ce que vous voulez le voir dans la parole de Dieu? La Bible dit que Paul était dans la ville d'Éphèse. Et pendant qu'il marchait, une servante animée d'un esprit de Python le suivait et donnait une parole exacte. Mais Paul a discerné, parce que dans son esprit, quelque chose, il y a quelque chose d'anormal. La parole est exacte, mais mon esprit, mon système d'alarme spirituelle. Avez-vous un système d'alarme spirituelle? En quel état est-il? Avez-vous payé vos factures au Saint-Esprit? Oui. Parce que tu peux avoir, il y a des maisons dans lesquelles le système d'alarme est inactif. Oui. Mais dans son esprit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et Paul dira, au nom de Jésus, cet esprit-là va sortir. Et beaucoup d'enfants de Dieu... C'est ça qui arrive. Tu es là et tu dors, tu fais des rêves. Il y a chaque fois le rêve te dit, dans le rêve on te dit, divorce avec ton mari. Toi aussi tu te lèves, tu dis, Dieu m'a parlé, ce mariage n'est pas la volonté de Dieu. Tu as oublié dans Malachie que Dieu dit, je hais le divorce. Alors tu te lèves et tu dis, je vais divorcer parce que le Seigneur m'a dit dans mon rêve, divorce. Mais tu n'as pas discerné à la lumière de la parole de Dieu et même dans l'esprit pour savoir, est-ce que c'est vraiment Dieu qui parle? Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Je vous donne quelques exemples. Dans le livre de 1 Roi, le chapitre 13 en entier, il y a un prophète que Dieu envoie en Samarie pour aller prophétiser contre l'autel que Jéroboam avait établi. Et Dieu lui dit, quand tu vas aller, parle contre l'autel, ne retourne pas par le même chemin et ne mange pas là. Et en chemin, il s'en va. Et c'est un jeune prophète, comme on l'appelle habituellement, et il prophétise. Mais un vieux prophète vient le voir et lui dit, non, moi aussi je suis prophète. Voyez-vous le danger qu'on a, c'est que les autres reconnaissent aussi les dons. Oh, un homme de Dieu. Mamani Tanga, quand elle dirige, il n'y en a pas de semblables. Voyez-vous, on aime ça. Et c'est par la voie par laquelle souvent, Satan va se déguiser en ange des ténèbres. Et entrer, commencer à nous influencer. Et pendant qu'il est là, et le vieux prophète l'emmène chez lui, ils vont manger, ils vont s'asseoir, et plus tard, il va se rendre compte qu'on l'a trompé, et il va mourir parce qu'il a manqué de discernement. Satan s'y déguise en ange des lumières. Ce n'est pas parce que c'est exact que c'est de Dieu. Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Je vous prie, quand vous rentrez chez vous, juste prendre la Bible, là, vous avez assez de nourriture pour toute la semaine. Et quand tu es nourri comme ça, tu ne cours même plus toutes les conférences. Les conférences sur comment tomber dans l'esprit, introduction à la divinité, comment sortir de la divinité, comment voler la nuit. Non, là tu as assez de nourriture. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Dieu, Jésus parle à l'église, le verset 20, pardon. Apocalypse 2, 20. Jésus parle à l'église de Thyatire, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, quand on manque même de discernement dans une église, on peut même laisser des gens animés d'un esprit mauvais en train de prêcher. Ce qu'ils disent est exact, mais les fruits produits par leur prédication, c'est les fruits de l'esprit qui les anime. Amen. J'ai plus entendu Amen. Amen. J'ai plus entendu Amen. Amen. Donc la personne peut être en train de prêcher, dit Dieu est bon, mais son esprit dit donc ne suivez pas Dieu. La personne peut me dire oui, vraiment, il faut se sanctifier. Mais l'esprit dit à ton esprit, il faut vivre dans le péché, il faut cohabiter, il faut vivre n'importe comment. Mais parce que tu ne peux pas discerner, et les leaders de l'église de Thyatire, spirituellement, s'étaient endormis. Et Jésus leur dit, la personne qui enseigne là, il faut la faire descendre de la chair, elle n'aurait jamais dû monter. Mais quand on ne sait pas discerner, naturellement, on ne peut pas. Spirituellement, on ne peut pas. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 15. L'apôtre Paul dit ceci: ce sont là des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Jésus-Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ange, en ministre de justice, afin, et leur fin sera comme leurs œuvres. Maintenant, c'est des voies externes que l'ennemi utilise. Donc, le but de Satan, c'est de forcer le disciple à ne plus se fier à son esprit. Quand on parle d'esprit, à son intuition, à sa communion, à sa conscience. Mais plutôt à suivre les œuvres de l'âme, donc de ses sentiments, de ses émotions. Exemple, j'ai l'habitude de dire aux gens, souvent quelqu'un est venu ici me croiser cette semaine et puis j'étais en train de travailler dans le bureau. Et puis c'était le lundi, donc je savais que personne n'allait venir. Et j'avais juste mes flip-flops, j'avais mon jeans et puis j'avais un chandail coupé ici. J'étais vraiment, j'avais pas l'air d'un pasteur quoi. Et puis je n'ai pas l'air d'un pasteur de toute façon. Je dis, je ne suis pas grand, je n'ai pas une grosse voix. C'est ça. Donc, j'ai vraiment rien, quoi. Et puis, je ne parle pas vraiment avec le sérieux liturgique. Mais jusqu'à ce que je commence à bouger dans l'esprit, là, tu vas te rendre compte que, oh mon Dieu, il y a quelque chose sur lui. Et ce qui est dangereux, c'est que l'ennemi, lorsqu'il va agir, il va agir de manière à ce que tu fonctionnes par tes émotions. Lui, il a l'air d'un serviteur de Dieu parce qu'il est foncé de peau. Lui, il est comme ça parce que Dieu est là, parce que il veut que ta vie spirituelle, tu la vives par tes émotions. Et quand tu vis par tes émotions, l'ennemi peut te contrôler facilement. Quelqu'un dit Amen. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que le diable agit par contrefaçon. Il agit en se déguisant, en donnant l'impression, en vous emmenant à croire. Alors, je vais juste citer deux éléments et nous allons terminer ce soir. Le reste, nous allons continuer la semaine prochaine. Est-ce que ça valait la peine?
Amen.
Le premier assaut que l'ennemi livre contre l'esprit humain, c'est ce que j'appelle la lourdeur. J'étais avec quelqu'un dernièrement. Vous savez, tu peux être avec un chrétien qui subtilement te dit qu'il ne faut pas aller à l'église. Il te dit ça, mais d'une façon tellement habillée, il te le dit. Il dit, mais toi aussi, tu vas, toi, à l'église. Il vient de te dire de ne pas aller. Mais il ne dit en rien, mais vous aussi, vous êtes. Il vient de te dire de ne pas aller. Toi, tu entends les mots, mais ton esprit saisit ce que son esprit veut te dire. Et quand tu n'as pas de discernement, et tu vas voir, quand tu as fini avec lui, tu es toujours fatigué un peu. Combien ici ont été baptisés du Saint-Esprit? Je veux juste savoir. Levez bien haut la main. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain que vous avez été baptisés du Saint-Esprit? En vous. Vous aviez l'impression de vous sentir un peu léger, n'est-ce pas? C'est ça l'état normal de ton esprit. Ton esprit, quand tu es normal, tu vas te sentir comme léger. Même si autour de toi, tout est difficile, mais tu as comme une joie, comme une léger. Mais ce que l'ennemi va faire quand il veut t'attaquer, attaquer ton esprit pour obstruer ta communion avec Dieu, soudainement, de nulle part, tu vas te sentir lourd. Tu vas te sentir pesant. Comme si tu portes un poids comme de 10 000 kilos, comme si tu es écrasé. Et cette tactique, en fait, que le diable envoie, c'est qu'il va t'envoyer de façon soudaine une lourdeur sur toi. De façon soudaine, tu te sens lourd. Et c'est comme si on sent immédiatement un poids qui est énorme à l'intérieur de soi et qu'on ne sait pas comment expliquer que ce poids est arrivé. En fait, l'ennemi utilise ce poids, qu'on pourrait appeler aussi une forme d'oppression, pour voler ta joie. Tu viens de l'église, tu es en joie, mais l'après-midi, tu te lèves, tu es juste dans ta chambre en train de pleurer. Tu es juste comme écrasé par un poids. Et en fait, ce poids bloque la fluidité de ton esprit. Parce que quand ton esprit est fluide, tu pries facilement. Tu adores facilement. Tu es juste là et puis soudainement, tu te mets juste à chantonner. Mais tu vas te rendre compte, quand l'ennemi t'attaque avec la lourdeur, c'est comme si les mêmes choses, c'est comme... Tu es juste... Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Je veux savoir... Tu te sens juste lourd, tu te sens juste écrasé. En fait, l'ennemi utilise ce poids-là pour que, avec le temps, en fait, te voler ta joie et, en fait, pour pouvoir faire une pression sur ton intuition, sur ta communion et sur ta conscience, qui sont les trois organes de l'esprit. Le but est de les écraser. Et si le disciple de Jésus-Christ, et je ne dis pas le chrétien, parce qu'aujourd'hui tout le monde se dit chrétien, si le disciple de Jésus-Christ n'est pas alerte pour reconnaître la source de ce poids et de cette oppression-là, parce que oui, ça peut t'arriver comme ça, et puis tu sens que bon, c'est parce que c'est une circonstance naturelle. Mais parfois, ça peut arriver, c'est spirituel, ça vient de nulle part. Soudainement, comme ça, tu es dans ta chambre, tu es juste abattu. Et pendant que tu es abattu, là, on commence à te bombarder sur les images de ton ex qui t'avait quitté, de ton grand-papa qui était mort. Puis c'est comme si on te bombarde. Et puis toi, tu es juste assis, c'est comme... Non, là, ton système d'alarme doit kicker. Il faut que ton discernement kick pour te dire, c'est pas normal, ça vient de nulle part. C'est pas normal, ça vient de nulle part. Il faut que ton discernement se réveille à ce moment-là. Et le danger de cette forme d'attaque, c'est que nous risquons de confondre la lourdeur certaine, la lourdeur soudaine, pour un événement naturel ou occasionnel. Et quand tu laisses cette lourdeur-là s'installer et que tu ne réagis pas, la prochaine fois, ça va empirer encore. Et à un moment donné, puisque ça revient et que tu ne fais rien, cette lourdeur-là va s'installer comme un climat normal dans ta vie. Voilà pourquoi tu vas voir qu'à partir de ça, toi qui n'étais pas dépressif, tu deviens dépressif. Toi qui étais un homme zélé, voulant travailler dans la maison de Dieu, tu n'as plus envie de rien. C'est ce qu'on appelle un chrétien refroidi. Des nombreux chrétiens qui autrefois fonctionnaient, il y a juste comme un poids sur eux. Il y a juste comme une lourdeur sur eux. Il est donc impératif de traiter cette lourdeur ou cette oppression immédiatement quand tu la sens. Immédiatement quand tu la sens. Lorsqu'elle est ressentie, il ne faut jamais adopter une attitude d'indifférence, car les conséquences peuvent être lourdes. Quand on ne prend pas soin de traiter cette lourdeur que l'ennemi impose sur toi, c'est comme un nuage juste sur toi, cette lourdeur-là va aller en croissant. Et quand on la laisse continuer, comme je dis, la prochaine fois, ça devient pire et ça devient un climat sur ta vie. Maintenant, je donne une pratique. On va s'arrêter là. Je citerai le deuxième la semaine prochaine. Est-ce que ça vaut la peine? Oui. Lorsque cette lourdeur-là vient sur toi, qu'est-ce que tu dois faire? Arrête tout ce que tu fais. Tu es sous attaque. Le problème de beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas quand ils sont attaqués. Ils pensent qu'ils sont attaqués quand on a pris l'argent, qu'il a perdu l'emploi. Souvent, la manifestation physique est en fait le résultat de quelque chose qui a commencé depuis longtemps, mais pour lequel tu n'as pas prêté attention. Arrête ce que tu fais et commence à résister dans l'esprit. Vous ne devez pas être une passoire où tout passe. Tout passe. Tout passe. Donc ton esprit varie tout le temps. Non. Il faut que tu résistes dans l'esprit. Il faut que tu prennes autorité dans le nom de Jésus. Si tu commences à prendre autorité de façon silencieuse contre cette oppression, ça ne fait pas, ben ouvre ta bouche et commence à déclarer ce que la parole de Dieu dit. Et si tu te tais, tu vas voir que cette oppression, et remarque dans ta vie, pour les fois où instinctivement tu as réagi, tu vas voir que c'est parti. C'est comme s'il y a une main qui s'est retirée de toi. C'est parce que tu étais sous une attaque intense de l'ennemi. Si tu laisses cette oppression continuer et que tu étais autrefois à donner à l'alcool, crois-moi bien que la prochaine pensée qui viendra, c'est quoi? Va prendre un verre d'alcool. Parce que ton naturel pense que l'alcool va soulager le poids que tu ressens. Si tu étais quelqu'un qui tu es assis et tu as l'habitude de regarder des films porno, tu vas voir que cette douleur, cette oppression va ouvrir la porte et soudainement, quand tu vas embarquer dans ton ordinateur, tes doigts vont commencer à te conduire. Parce que ton naturel pense qu'en soulageant par ça, le poids, l'oppression va partir. Mais ton esprit est attaqué par l'ennemi. Quelqu'un dit Amen.
Amen.
Quelqu'un dit Amen.
Amen.
Donc, il est important de prendre le temps de prier, de déclarer la parole de Dieu face à l'oppression, la lourdeur que tu ressens. Et finalement, à la fin, essayez de trouver, demandez à Dieu de vous révéler, c'est quoi la cause? Pourquoi j'ai subi cette attaque? Pourquoi j'ai subi? Essayez de noter à quel moment vous avez subi cette attaque-là. Amen.
Amen.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever?